Europe 1. Même en ces temps de confinement, on vous retrouve Patrick Cohen en direct de chez vous pour cette arrivée cette semaine.
Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Directeur du département d'économie de Normal Sup, à l'heure où nous parlons, plusieurs centaines de millions d'habitants des pays développés vivent en confinement et ça ne fait que commencer. Vous imaginez qu'un jour, à cause d'un microbe, la planète s'arrêterait de tourner ou au moins qu'une partie de l'humanité serait forcée de rester immobile?
Bah, on l'a vu, on l'avait vu un peu avec le SRAS, on avait eu cette vision un peu d'avant-coureur d'une situation où en effet l'interconnexion des humains avec la mondialisation allait créer quelque chose bon qui, comme votre précédente invité le disait, n'a rien de nouveau, mais on voyait bien qu'il y avait toutes les raisons de penser, en tout cas en 2003, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de cette nature qui pouvait se dessiner. C'est ce qu'on vit en effet aujourd'hui. De cette ampleur, non, personnellement, je n'avais jamais pu l'imaginer.
Alors qu'est-ce que nous dit la science économique face à un tel coup d'arrêt, face à un événement complètement inédit?
Alors la science économie, à mon avis, pas grand-chose, mais les comptables, beaucoup. Enfin, on peut tous faire l'exercice de pensée qui consiste à se dire, supposons que pendant un mois en France, il ne se passe rien. Puis après, on va appliquer des règles de trois à ce cas limite. Si pendant un mois, il n'y avait aucune activité économique, ben ça ferait un 1/12 de PIB en moins. Je crois que tout le monde peut le comprendre. Ça ferait une récession de 8%. Un 1/12, c'est 8%. On aurait 8% de manque à gagner sur l'année. Alors évidemment, ouais, on n'est pas sur un mois d'arrêt total. Il y a des activités qui vont pouvoir récupérer ce qu'elles ont perdu au cours de ce mois tragique. Par exemple, vous voulez acheter un appartement, vous n'allez pas le faire cette année, mais évidemment, votre plan ne va pas s'arrêter pour cette crise, vous allez le faire après. Il y a des biens, des achats que vous allez récupérer, et il y en a que vous ne récupérerez pas. Aller au restaurant, aller voir un concert, au cinéma, toutes ces activités de flux pur, vous écoutez à la radio, si je le fais ou pas, je ne peux pas le récupérer en vous écoutant deux fois plus, aller deux fois plus au restaurant. Donc il y a des activités qui par nature ne le récupéreront pas. Si je dis que 2/3 seront épargnés, seront récupérés ou en fait pourront continuer de travailler, les 8% deviennent 2,5. Voilà. Donc il y aurait une récession de 2,5 avec ces deux clés. Ce 2,5, je ne le dis pas au hasard, c'est l'estimation de la commission économique. On voit d'où ça vient. C'est ce genre, c'est pas la science, c'est des règles de 3. Après, si c'est deux fois plus grave, si c'est pas un mois, c'est deux mois, ça sera le double. Et si c'est un trimestre, ça sera évidemment, oui, encore plus. C'est ça les ordres de grandeur. Donc c'est considérable. Je rappelle, en 2008, qui avait été une crise incroyable, la plus sévère depuis la fin de la guerre, on avait fait moins 2,9, quasiment moins 3. Donc on est sur des étiages qui vont forcément ressembler à cette crise de 2008-2009.
Mais en 2008, c'était une crise financière. Là, c'est l'économie réelle qui est touchée, avec d'énormes destructions de richesses. Est-ce que les banques centrales, les budgets nationaux ont les moyens de la compenser? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir le carnet de chèques ou le robinet à crédit quasiment sans limite comme ça a commencé?
Alors, ils ont les moyens de le faire, mais en effet, le parallélisme avec 2008 s'impose jusqu'à un certain point quand même. Donc, le parallélisme, c'est qu'en effet, en 2008-2009, on avait donné l'artillerie, les banques centrales étaient intervenues, avaient multiplié par 4 leur bilan, ce qui est évidemment énorme. Les déficits avaient été considérables. Le déficit français, c'était 7,7% de déficit. Donc, on avait vraiment mis le paquet. Il faut le faire aussi aujourd'hui comme on l'avait fait à l'époque, et on verra après. Vraiment, c'est ça l'essentiel. Mais c'est pas la même chose qu'en 2008. En 2008, c'était une crise financière à l'origine, et donc il fallait surtout éteindre l'incendie au sein du système financier. C'est ce qui explique que c'était surtout les banques centrales à la manœuvre à l'époque qui avaient essayé d'éviter une contagion, un effondrement systémique, comme on dit, du système bancaire et financier. Là, comme vous le dites très bien, c'est l'économie réelle, c'est le café qui ferme, c'est le concert qui n'a pas lieu. Ça, c'est pas c'est pas la banque centrale qui va pouvoir l'endiguer. Il n'y a que les budgets pour prendre en charge, peut-être un pour un, ces activités perdues. La réponse idéale, c'est évidemment celle où on arriverait à avoir cette intelligence du détail, parce que c'est pas si simple, mais qui permette de dire au restaurateur qui a fermé pendant un mois ou deux, ben voilà, l'État vous dédommage entièrement. Pas d'impôts, chômage partiel, pas de charges, et votre crédit, ben, on va l'oublier. Voilà, il faudrait faire quelque chose, si vous en avez un. C'est quelque chose de cette nature, donc si on est sur 2,5 de croissance en moins, ça devrait, si c'était bien fait, se traduire exactement par 2,5 de déficit en plus, et si c'est le double, c'est le double, sans compter qu'évidemment, après, il va falloir relancer un peu tout ça quand même, là, il faudra faire des choses un peu plus classiques.
Alors,
pour l'instant, il faut dédommager les gens pratiquement au centime près. C'est ça la politique idéale. C'était pas exactement ça en 2008. C'était plus financier à l'époque.
Alors donc, Daniel Cohen, et ensuite, est-ce que la machine économique va repartir comme avant ou différemment? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui peut changer dans notre modèle d'aujourd'hui?
Alors, d'abord, au strict point de vue de la politique macroéconomique, il faudra redonner un petit coup d'accélérateur. Il suffit pas de dédommager, comme je viens de le dire, un pour un, les gens qui n'ont pas pu travailler. Il faudra relancer un peu les choses. En 2008-2009, la Chine était encore une puissance en marche. Elle avait un potentiel de croissance qui était encore très, très fort. Et l'Allemagne, d'ailleurs, avec le chômage partiel, avait toujours tout joué sur la reprise de ses exportations vers la Chine. Et ça avait marché, ce pari. Là, ça ne marchera pas comme ça. La Chine est en déclin de sa croissance. À l'époque, on tournait autour de 10. Là, on va être plutôt à 4 ou 3 cette année. Ça n'aura pas le même effet d'entraînement. Donc, il faudra faire plus et ne pas simplement compter sur une répétition des mécanismes qui avaient fonctionné en 2008-2009. Maintenant, si on prend un peu de recul, oui, on voit que cette crise, comme souvent, va être un accélérateur de tendances qui étaient déjà perceptibles. Sur le front de la mondialisation, on s'est rendu compte d'une extraordinaire dépendance par rapport à la Chine, mais par rapport, on va dire, à la chaîne de valeur totalement parcellisée, éclatée dans le monde, qu'on en a perdu en réalité le contrôle. On l'a vu pour la pharmacie, mais il y a vraiment toutes sortes de secteurs qui vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Donc, ce qu'on voyait déjà l'année dernière avec les batailles commerciales de Trump, mais c'est une tendance qui remonte à plus loin, à savoir une tendance à relocaliser les choses, à ne plus compter comme on l'a fait jusqu'à l'extrême sur le commerce international. Je crois que ça, la crise chinoise va accélérer la prise de conscience du fait que la mondialisation a été trop loin. Ça, c'est un bout, si je puis dire, du raisonnement. Mais il y a l'autre bout, et je pense que c'est ça qui laissera la marque la plus forte. C'est que on est aujourd'hui à l'heure de nouvelles technologies numériques, à l'heure des GAFA, et on voit que cette crise va être un extraordinaire accélérateur de ça. On voit qu'on est obligé de vivre sur sa tablette pour tout, quoi, pour s'informer.
C'est le triomphe du numérique.
Et je pense que ça va être l'accélérateur de cette tendance. Donc sur un côté, oui, la mondialisation, le capitalisme, pour utiliser cette expression un peu vague, va revenir, va ramener un peu les choses chez soi. Mais de l'autre, plutôt les nouvelles technologies, mais évidemment portées par ce qu'on peut appeler le capitalisme du 21e siècle, vraiment, c'est-à-dire celui des algorithmes et du numérique. Là, je pense que ce sera un accélérateur. Il y a des pratiques qu'on est en train de prendre, de se réunir à distance, d'utiliser davantage, encore une fois, les tablettes et autres. Je pense que ça restera. Les vainqueurs, on le
voit. Avec un effet de déshumanisation, le travail en ligne, c'est le nouveau travail à la chaîne.
Exactement. Moi, je compare ça au travail à la chaîne au début du XXe siècle. C'est le travail en ligne aujourd'hui. On rentre dans n'importe quel bureau. Enfin, il y a des gens derrière des ordinateurs presque partout. Et donc ça... Toutes ces choses vont s'accélérer et à la fois c'est bien d'un côté parce que c'est des nouvelles technologies, ça ouvre le champ des possibles, mais ça prépare, comme le travail à la chaîne, une formidable déshumanisation à l'échelle du 21e siècle. Je crois qu'on est en train de vivre le premier moment d'une industrialisation de notre économie de service.
Merci beaucoup Daniel Cohen d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour tenter de nous éclairer sur ce monde qui change et qui va sans doute brutalement changer.